Detto ciò, darei la parola dunque rapidissimamente, purtroppo non voglio dilungarmi perché i tempi sono veramente stretti, al dottor Ciati, che viene in rappresentanza del Dipartimento della Funzione Pubblica dunque della francese, è un dirigente della missione dunque delle affari europee e quindi ci mostrerà dunque il caso francese per il quale peraltro dunque è stato distribuito, se non vado errato, dunque diverso materiale dunque che può essere utile anche per capire questo processo evolutivo.
Oui, merci bien. Donc pensez à mettre vos casques puisque je vais parler en français. Je m'excuse également par avance du fait que mes transparents seront en français, mais j'ai observé durant la séance précédente les transparents en italien et il y a une telle proximité de langue que je pense que vous pouvez aussi suivre sur ces transparents. Donc je suis Lionel Ciati, comme le disait Sergio, et je travaille au sein de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui est la direction qui traite des affaires d'administration et de fonction publique, et surtout de GRH de manière générale. Alors pour commencer, pour faire un petit point, c'est ça le stylo électronique ? Vous voyez le petit point ?
Oui, ça marche.
Oui. Alors, juste une rapide présentation de l'organisation administrative française. Il est évident que, je vais prendre un certain nombre de précautions, tout n'est pas inscrit ici, mais vous avez l'essentiel des structures centrales, donc qui correspondent à cet ensemble-là, donc l'État et ses services déconcentrés, et les structures qu'on appelle décentralisées, qui correspondent à ces trois structures. Donc au sein de l'État, nous avons tout d'abord le gouvernement, que l'on caractérise par les structures centrales autour du Premier ministre, et les différents ministères, donc qui sont basés à Paris. Et nous avons ensuite un découpage en différentes unités territoriales, piloté donc pour les régions par le préfet de région et pour les départements qui sont des unités, des sous-unités des régions par le préfet de département. Je vous passe les détails puisque nous avons encore un autre découpage infra par rapport au préfet. Le gouvernement agit sur le terrain à travers ces directions régionales des services déconcentrés et les directions départementales qui sont également des services déconcentrés des différents ministères. Donc grosso modo, pour chaque ministère, vous retrouvez une direction régionale et sur cette région, un certain nombre de directions départementales. Voilà pour la partie État. Pour la partie organes décentralisés, nous avons un découpage qui est sensiblement identique, enfin, qui correspond au découpage des directions régionales, donc avec un conseil régional, bien évidemment, par région, et puis un conseil général par département. Nous avons également, qui est l'unité de base des structures administratives françaises, la commune, et vous savez que nous en avons à peu près 36 000 en France, ce qui fait un poids important de ces structures. Voilà pour l'organisation administrative de manière générale. C'est important pour comprendre qu'il y a un poids important de l'État, notamment sur les territoires, régions et départements, et que donc ça a des conséquences fortes et importantes en matière de gestion des ressources humaines. Deux, trois chiffres pour vous expliquer un petit peu comment est structurée notre administration du point de vue des emplois. Nous avons trois fonctions publiques. Je vous en ai présenté deux tout à l'heure. Donc, fonction publique de l'État, avec 2 500 000 ETP. La fonction publique territoriale, donc conseil régional, conseil général et collectivité locale, commune, pardon, 1 500 000. Et puis une troisième fonction publique, l'hospitalière, donc qui gère les hôpitaux, de pratiquement 1 million de personnes. Ce qui nous donne un total de 5 millions, un peu plus de 5 millions d'agents pour l'administration. Et vous voyez que l'État a 51% des effectifs. Donc c'est vraiment l'État qui a un poids très important. Mais je reviendrai après là-dessus, puisque au sein des structures de l'État, on compte les enseignants. Et si l'on retire les enseignants, cela réduit énormément le volume de l'État, proportionnellement. L'emploi total en France, c'est 24 724 000 personnes, ce qui fait que l'on a un pourcentage de l'emploi public de 18,7% sur l'emploi total. Donc vous voyez qu'il y a aussi un poids important de la fonction publique au regard de l'emploi total français. L'administration française est découpée en trois catégories d'agents. Catégorie A, pour la conception, donc les agents de conception, les hauts fonctionnaires. Catégorie B, les agents, disons, de réalisation. Et catégorie C, les agents d'exécution, donc qui sont la catégorie la plus basse. Nous avions une catégorie D auparavant, mais elle était intégrée dans cette catégorie C. Donc vous voyez là aussi que si l'on prend les catégories A pour la fonction publique de l'État, on est à 45%, ce qui fait un poids énorme, par rapport aux autres fonctions publiques, hein, 8 pour la fonction publique territoriale et 14 pour la fonction publique hospitalière. Mais si l'on retire les enseignants, vous voyez que l'on tombe à 19% du poids des catégories A et un poids donc relatif de la catégorie C qui augmente à 50%. Un petit schéma ici qui illustre un autre élément clé de l'évolution de l'administration française, l'évolution de l'emploi dans les trois fonctions publiques et de l'emploi total. Alors vous voyez que l'emploi, c'est cette ligne-là, là, en France, évolue comme ça. La fonction publique hospitalière monte un peu, se rapproche. La fonction publique de l'État est relativement en baisse, mais la fonction publique territoriale, c'est-à-dire conseil régional, conseil général et municipalité, augmente très fortement. Ce qui est lié essentiellement à une tendance de décentralisation que nous avons mise en place depuis donc 82-83, mais qui s'est accentuée en 2002-2003. Donc voilà pour les quelques données. J'ai bien conscience qu'elles sont, c'est un peu rapide, mais là n'est pas l'essentiel de mon propos. Vous avez là l'organigramme de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, c'est-à-dire, en quelque sorte, notre DRH groupe, c'est-à-dire la direction des ressources humaines qui définit les règles pour l'ensemble de la fonction publique de l'État. Donc très rapidement, bon, je vous passe la direction, mais nous avons deux directions clés. La direction ici, qu'on voit mal le titre, alors je vous le lis, sous-direction des statuts et des rémunérations. Donc c'est vraiment le cœur du moteur qui suit l'évolution des statuts. N'oublions pas que la fonction publique française est une fonction publique de carrière. Et puis deuxième sous-direction ici, la sous-direction de la gestion des ressources humaines. Donc qui traite plus des aspects des aspects managériaux de la fonction publique. Nous avons un certain nombre de satellites. Ici, la mission aux affaires européennes et internationales. Ici, l'Observatoire de l'emploi public. Là, un comité de recherche et prospective. Et un chef de mission encadrement supérieur. Et là, un projet très important de système d'information des ressources humaines. Alors, je vous présente cet organigramme, mais j'ai un petit peu de réticence à vous en parler, puisque nous sommes actuellement en train de le refondre, de le transformer. Et dans quelques temps, il ne sera plus comme il est aujourd'hui. Nous aurons inévitablement ces questions juridiques qui seront traitées, mais également ces questions de gestion des ressources humaines. Mais il y aura aussi peut-être plus d'importance donnée aux aspects européens et internationaux, ainsi qu'aux aspects systèmes d'information. Alors, notre contexte de gestion des ressources humaines qui définit, qui contribue à définir le modèle vers lequel on tend. Plusieurs facteurs donc, qui bouleversent notre cadre d'action. Premier facteur, l'impact démographique des départs massifs en retraite des fonctionnaires dans les 10 prochaines années. Nous allons avoir un pourcentage très important de fonctionnaires qui seront à la retraite, qui partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc, deuxième point, ça aura un effet sur l'évolution du nombre des emplois publics. Troisième facteur essentiel pour nous, la poursuite de la décentralisation, qui, vous l'avez vu avec l'évolution des effectifs, est quelque chose qui n'est pas simplement théorique. Nous avons une modification de la Constitution en 2003 qui pose le principe que la France est un État décentralisé. Alors que Sergio le disait tout à l'heure, la France a une structure centralisée très forte. Nous avons aujourd'hui valorisé le principe que la France est un État décentralisé. Quatrième élément important pour nous, l'introduction massive des technologies de communication génère un nouveau mode de prise en charge de la gestion des ressources humaines. Cinquième point important, la réforme budgétaire. C'est ce que Sergio évoquait tout à l'heure. Notre loi organique relative aux lois de finances bouleverse radicalement la gestion publique et donc la gestion des ressources humaines. Je vais vous en parler. Et puis dernier point, l'impact des normes européennes qui ont un effet à travers l'émergence de cet espace administratif européen et qui impacte très directement notre législation. Donc pour nous adapter à ce contexte, qui vous le voyez est lourd et doit véritablement être pris en compte, plusieurs changements ont été mis en œuvre. Alors, le contexte ou l'élément essentiel de contexte, c'est la réforme budgétaire qui renouvelle vraiment profondément le management et en le renouvelant par ce qu'on appelle programme d'action. Donc nous avons deux perspectives aujourd'hui, très clairement définies. D'une part, un pilotage qui se fait en administration centrale, et d'autre part, une logique plus d'exécution de ces budgets dans le cadre des services déconcentrés. Donc je le disais, hein, on a des responsabilités qui sont déclinées au sein des services déconcentrés avec... pour chaque programme, un résultat identifié. Alors généralement, le responsable de programme qui est ici, c'est un directeur d'administration centrale. Ce responsable s'engage sur des objectifs et des résultats, et puis il les décline ensuite dans la gestion interne. Il gère librement les crédits, ça c'est très important, et c'est radicalement une évolution au sein de l'administration française, il gère librement les crédits au sein de son programme, à la seule condition donc, de ne pas accroître les dépenses de personnel par rapport à l'autorisation parlementaire. Donc il peut gérer librement ses crédits, en service déconcentré, dans cette limite. Et fondamentalement, donc, vous voyez que ce schéma rejoint une logique de management par objectif, avec un dialogue de gestion qui s'effectue entre le responsable de programme et le responsable de ce qu'on appelle le BOP, c'est-à-dire le budget opérationnel de programme. Cette évolution de la loi et donc des structures législatives est mise en œuvre concrètement dans le cadre de conférences annuelles, donc je parle de l'État, hein, de conférence annuelle de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Donc nous avons démarré, c'est tout récent, ce travail en 2006, donc avec 7 ministères qui ont été volontaires pour expérimenter cette pratique. L'objectif de ces conférences, c'est établir une feuille de route, c'est-à-dire un plan d'action, avec des engagements pour chaque ministère, identifier et partager les bonnes pratiques ministérielles, puisque tous les ministères sont rassemblés et s'écoutent, parler, et présenter leurs difficultés, leurs ressources. Et troisième point, mettre en place un dispositif de suivi pluriannuel et d'animation des projets de modernisation des ressources humaines. Ces conférences annuelles, donc qui rassemblent les ministères, sont animées par notre direction, donc que je vous ai présenté tout à l'heure, donc la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, en association avec les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des ministères, et en liaison avec le ministère du budget et de la réforme de l'État. Il y a aussi une logique d'efficience derrière cet aspect, c'est-à-dire que le Premier ministre a demandé à chaque ministère de fournir des propositions chiffrées de redéploiement des effectifs, premier point, et deuxième point, de non-remplacement des départs à la retraite. Ce qui ne veut pas dire un service public de moindre qualité, ce qui sous-entend une meilleure organisation et donc une plus forte motivation des agents publics dans le cadre de leurs activités professionnelles. Alors, quels sont les thèmes couverts par ces schémas stratégiques? Je vous rappelle que ces conférences dont je vous ai parlé, hein, ces conférences annuelles de gestion prévisionnelle des ressources humaines, c'est vraiment ce qui fait le cœur de la machine de définition des orientations ministérielles. Et au sein donc de ces conférences sont discutés un certain nombre de thèmes que je vais vous présenter. Tout d'abord, il s'agit d'élaborer des plans de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, et donc d'entrer dans une logique d'approche par métier. Avec deux perspectives, tout d'abord une perspective quantitative, donc avec des projections démographique. Je vous ai fait passer d'ailleurs un document avec la liste, cette circulaire, hein, vous pouvez la consulter, cette circulaire du ministre de la fonction publique, avec la liste des outils utilisés. Projection démographique, scénario d'évolution des emplois, etc. Donc là, on est dans une approche quantitative. Il ne faut pas oublier qu'on traite là de l'ensemble des ministères, et pas simplement, j'allais dire, d'une collectivité locale, pour lequel les effectifs sont beaucoup moins importants. Là, on parle de 2 millions d'individus. Et deuxième approche, l'approche qualitative. Donc à travers quelque chose qui a été achevé récemment, qui est un répertoire interministériel des métiers de l'État. C'est-à-dire qu'on a identifié un certain nombre de métiers au regard des compétences requises pour l'exercer, au sein des structures de l'État, ce qui facilite notamment une lisibilité interministérielle des emplois et des compétences. Deuxième point couvert par ces schémas stratégiques, le pilotage de la gestion des ressources humaines et la déconcentration. C'est aussi un point très important. Donc, tous les ministères doivent travailler à la déconcentration de leur gestion, et c'est vrai que ça n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des administrations centrales qui restent accrochées à leurs prérogatives, et ces outils-là nous servent à, en quelque sorte, obliger ces administrations centrales à aller dans le sens de la déconcentration. L'objectif étant de, c'est ce qui est le plus important, mettre en place un dialogue de gestion entre les services déconcentrés et l'administration centrale, pour permettre aux responsables locaux de faire le lien entre le nombre et la structure des emplois et leurs objectifs. C'est-à-dire qu'on essaie de penser les effectifs au regard des objectifs que l'on a, et non plus l'inverse. Il y a quelques années, le pouvoir d'un ministre ou le pouvoir d'un directeur d'administration se mesurait au nombre d'individus qu'il avait sous sa responsabilité. Donc on essaye aujourd'hui de renverser la perspective en disant, peu importe le nombre d'individus que vous avez sous votre responsabilité, regardez plutôt les objectifs que vous devez atteindre et vous serez mesuré au regard de cette capacité à atteindre ces objectifs. Troisième point, une mutualisation, une mise en commun au niveau territorial des moyens et des outils de la GRH pour réaliser des économies d'échelle. On sait que sur les territoires, donc régions et départements, il peut être utile de rassembler les ministères pour mettre en place ce qu'on appelle des bourses locales de l'emploi public, pour faire en sorte que ces agents, les agents de différents ministères puissent se croiser et postuler pour des emplois dans d'autres ministères. Autre élément important, je crois que Sergio en parlait tout à l'heure, les corps. Nous en avons une pléthore de corps dans l'administration française. Le corps correspond pour l'administration territoriale à nos notions de cadre d'emploi. Donc nous avons expérimenté dans le cadre de sept ministères des fusions de corps, c'est-à-dire des regroupements. Et aujourd'hui, nous avons... Alors, vous me direz, c'est peu par rapport au nombre de corps qui existent dans l'administration française, mais travailler au regroupement de 73 corps en 27. Mais là aussi, ça peut paraître peu, mais il faut imaginer les réticences d'un certain nombre d'agents à accepter la disparition ou la fusion de corps. Parce que là aussi, on touche à la notion de pouvoir. Alors ces fusions de corps s'accompagnent également d'amélioration de déroulement des carrières, parce que très concrètement, il est plus facile lorsque l'on regroupe des corps différents ministères, eh bien de passer d'un corps à l'autre dans ces différentes structures ministérielles. Donc une mobilité fonctionnelle qui est également favorisé. Autre thème couvert qui est fondamental, l'évolution des processus de recrutement, avec trois objectifs essentiels. Tout d'abord, prendre en compte, et je le lisais encore ce matin dans le journal, nous avons avancé sur ce projet de loi hier, mieux prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle. Nous sommes, je vous le disais tout à l'heure, encore trop dans une logique de recrutement sur concours et donc sur diplôme. La France vit encore beaucoup sur l'idée, alors peut-être un leurre, que la valeur individuelle repose sur le fait d'avoir un diplôme ou d'avoir passé un concours. Or, on s'aperçoit, mais dans tous les pays européens, je ne vous apprends rien, que les acquis de l'expérience sont fondamentaux. Donc nous sommes en train de, et ce projet de loi avance, créer un dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Deuxième point important en termes de processus de recrutement, mieux intégrer les personnes handicapées. Donc nous avons demandé des plans triennaux, c'est-à-dire tous les 3 ans, de recrutement et d'insertion des personnes handicapées pour plusieurs ministères, qui est donc un public... J'accélère. Et troisième point, une plus grande diversité sociale de recrutement. Vous avez vu que la France a eu un certain nombre de problèmes récents en termes sociaux. Donc il est important de faire mieux fonctionner aujourd'hui ce qu'on appelle l'ascenseur social pour permettre aux catégories de gens un peu défavorisés d'accéder à des emplois au sein de la fonction publique. Autre point, l'amélioration de la gestion des carrières. Je serai rapide là-dessus. Pardon. Valorisation de la formation continue avec des formations de plus en plus importantes pour l'ensemble des agents des ministères. Deuxième point, l'évaluation des agents. Qui sera pardon, le futur manager de services importants. Et quatrième point, la gestion individualisée des carrières. Donc pour faire en sorte qu'il y ait une véritable motivation des agents. Et enfin, dernier point, je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre a demandé la suppression, le non-renouvellement d'un certain nombre d'agents qui partent à la retraite. Eh bien, ce non-renouvellement d'agents, c'est un gain en termes salariaux, nous allons le réinvestir dans les rémunérations pour favoriser, pour développer la motivation des agents. Donc il y a quelque chose de mécanique entre non-renouvellement des agents et valorisation par la rémunération. Alors, l'ensemble de ces actions que je viens de lister engage les DRH des ministères et le ministère de la fonction publique dans trois grandes fonctions. Là, on parlait du pilotage au sein des budgets opérationnels. Là, il s'agit vraiment du pilotage stratégique. Donc, il y a trois grandes fonctions. Un pilotage stratégique pour avoir une vision d'ensemble, puisqu'on ne peut pas avoir des systèmes qui fonctionnent de manière autonome totalement. Donc, vision d'ensemble en termes d'effectifs et de besoins en compétences, c'est très important, à travers des schémas pluriannuels. Deuxième action des DRH et du ministère de la fonction publique, des prestations de services, c'est-à-dire que nous concevons et nous mettons en œuvre des méthodes et des outils utiles pour les ministères, dans le cadre de la gestion concrète, mais ce sont des outils qui sont utilisés par tous, tels que répertoire de métiers, les emplois types, etc. Et troisième point, troisième valeur ajoutée, la régulation des processus de gestion. C'est-à-dire qu'il faut, et nous sommes garants du fait que le statut général et la politique de l'État employeur est respecté dans le cadre des autonomies qui sont données à chacun des ministères. Une minute là-dessus. Donc, peut-être remise en perspective, les principaux axes d'évolution de la GRH depuis 20 ans. Alors, une minute. Ce que l'on peut dire essentiellement, c'est que l'évolution de la GRH depuis 20 ans est marquée par deux choses. D'une part, la déconcentration des responsabilités ou la responsabilisation des fonctionnaires, de plus en plus. Et deuxième point, la contractualisation, c'est-à-dire le fait de définir des contrats entre le centre et la périphérie. Alors j'ai pointé quelques dates. 1985, les cercles de qualité, qui étaient dans une logique participative et donc de responsabilisation également des fonctionnaires. 89, vous en avez peut-être entendu parler, le renouveau du service public, une réforme portée par la gauche, alors que les cercles de qualité étaient portés par la droite, mais qui reste dans le même esprit de promotion de l'évaluation et responsabilisation des agents. 95, une continuité sous la droite encore avec les contrats de service. Et puis 2001, donc cette réforme budgétaire, qui est parfois qualifiée de constitution financière, qui est fondamentale. Voilà, j'en resterai là simplement. On se situe, mais comme vous, je pense, entre deux choses. D'une part, ce que je vous ai présenté là, qui relève des grands principes de fonctionnement avec un certain nombre de contraintes, donc on est peut-être dans une sorte de logique de pensée managériale, théorique, et puis ce qui se passe vraiment sur le terrain, et là on peut peut-être renvoyer à une logique de pensée manageante, c'est-à-dire ce que font les managers au quotidien. Donc je ne vous cache pas, et je ne voudrais pas avoir un discours lénifiant, qu'on est encore loin d'une application de l'esprit des réformes que je vous ai présentées là, au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'il est essentiel de faire, c'est de changer la culture des managers qui sont, jour après jour, face à leurs équipes, et qui ont à mettre en œuvre cette logique d'inspiration managériale, de responsabilisation. Mais il est clair que si l'on ne donne pas les outils et si l'on ne fait pas évoluer cette culture des managers locaux, ce type de réforme restera lettre morte. Cela dit, on a un certain nombre de leviers qui aujourd'hui les obligent à aller dans le sens de cette responsabilisation, notamment ces logiques de budget, de responsabilité par programme. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé si j'ai dépassé un peu le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup.